Voilà. Maintenant, nous passerons à la seconde partie de l'exposé qui va être faite par Thomas Bocongibaud, qui est membre de l'équipe Sophia Paul, et qui va poursuivre cette présentation. Est-ce que une demi-heure, ça va ?
Oui.
Bon, moins 20 minutes, parfait, très bien. Comme ça, après, il y aura la place pour le débat de fin de séance qui s'arrêtera à 19h.
Bon, bah écoutez, je remercie bien vivement les organisateurs du séminaire, en particulier Christian Walter, de leur invitation, qui me donne enfin l'occasion de rencontrer personnellement Hubert Rodary, qui avait bien voulu m'envoyer une première version de son travail très original et très intéressant. Je suis embêté parce que je vais pas avoir... je me rends compte à nouveau que, en fait, partant d'horizons assez différents, moi, la philosophie, l'histoire des idées, des choses très académiques et très classiques, eh bien finalement, nous avons des conclusions assez proches. Si je vais quand même essayer pour ma part d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'il me semble que si la cybernétique est venue à l'esprit de M. Rodary, c'est pas tout à fait par hasard. En effet, je crois qu'il y a un imaginaire automatique et même cybernétique, en fait, derrière la structuration des rapports économiques et financiers des temps modernes. De sorte qu'il faudrait, en fait, prolonger en fait la critique de M. Rodary et montrer comment c'est à partir d'un certain nombre de méprises sur les concepts fondamentaux de la cybernétique, en particulier celui de feedback ou de rétroaction, qu'on puisse enclencher des mécanismes nocifs tels qu'il décrit dans son livre. Plus largement, je crois que cette critique permet de pointer les ambiguïtés des concepts tels que régulation ou autorégulation de systèmes sociaux. Raison pour laquelle j'aurais intitulé cette communication « Cybernétique et régulation, origine et implication d'une confusion ». Mais plus largement, je crois aussi que cela permet, pour ceux en tout cas qui s'intéressent à la philosophie et à l'épistémologie, de chercher à intégrer pleinement l'histoire des transferts conceptuels et des métaphores à l'intérieur de l'étude des sciences et des techniques, y compris les techniques des technologies sociales. Donc je vais d'abord essayer de dévoiler l'arrière-plan ou les fondements archéologiques du rapprochement entre finance et cybernétique. Je me demanderai d'abord d'où vient exactement l'idée de système social autorégulé et comment ce paradigme cybernétique s'ancre-t-il en fait dans une tradition assez longue de conception systémique du social. Ça remonte au 19e siècle. Cet examen me permettra dans un deuxième temps de mettre en lumière les difficultés persistantes de cette approche, difficultés en fait assez traditionnelles, et auxquelles donc les développements des marchés financiers ont donné de nouveaux aspects. Même si ça me conduira peut-être ponctuellement à m'éloigner de certains points de M. Rodary, ou plus exactement de l'interprétation de la cybernétique. Donc là où M. Rodary utiliserait le paradigme cybernétique pour montrer en fait de manière critique les insuffisances des mécanismes d'autorégulation financière, je dirais que c'est ce paradigme cybernétique lui-même qui, parce qu'il a été en fait mal compris, est responsable d'un certain nombre de problèmes que nous constatons. C'est quasiment en fait la même thèse. Ce qui du coup engage la question de savoir dans quelle mesure nos relations sociales sont justiciables d'une rationalité systématique, comme il vient de le dire très bien. Donc, préhistoire du concept de régulation. Tout usage des modèles de cybernétique dans le champ des relations sociales est tributaire de la notion de régulation, effectivement entendue au sens large dans un premier temps comme contrôle dynamique d'un système. D'après un historien des sciences que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Georges Canguilhem, cette notion de régulation tire son origine le débat cosmothéologique entre Leibniz et Newton sur la question de la conservation de l'ordre dans l'univers. Donc on est vraiment dans la cosmologie au sens large. Leibniz prend appui sur la structure du pendule de Huygens, enfin de l'horloge pendulaire de Huygens, pour concevoir l'action divine dans l'univers comme une détermination initiale et définitive des règles d'organisation de l'univers. Donc, effectivement, on a déjà l'idée d'une conservation et d'un asservissement, qui a bien mis en lumière M. Rodary. Paradoxalement, Leibniz et Newton ont eu un gros différend sur justement la question de savoir si l'univers était déterminé une fois pour toutes ou pas, mais au moment où la physique newtonienne se développe au XIXe siècle, finalement, c'est d'une certaine façon l'imaginaire leibnizien d'une conservation de constantes qui l'emporte. Donc au plan métaphysique, si vous voulez. Donc la régulation d'un système reste synonyme de maintien d'une constante, permettant une coexistence harmonique, comme dirait Leibniz, des parties de ce système. On le voit dans la machine à vapeur, avec le fameux régulateur à boule de James Watt, qui permet donc un système de contrôle par rétroaction d'un débit de vapeur qui reste constant en jouant sur un dispositif de force centrifuge. Voilà. Et de là, par un nouveau détour, le concept de régulation a subi une inflexion biologique et spécifiquement physiologique qui permet de l'entendre cette fois comme une fonction préservatrice de l'intégrité de l'organisme face aux aléas externes, avec Claude Bernard et ses successeurs. Dans l'organisme vivant, la notion de régulation trouve à s'ancrer plus profondément et plus adéquatement que partout ailleurs, ce qui fait qu'Anguilhem dira dans un article de 1974 que le concept de régulation recouvre la quasi-totalité des opérations de l'être vivant. C'est le fait biologique par excellence. Mais ce développement univoque et fixiste, finalement, du concept de régulation, de l'horlogerie à la physiologie, en passant par les machines à vapeur et les organismes, a fini par être confronté, au XIXe siècle, à l'irruption d'une nouvelle conscience, conscience de la temporalité, précisément, conscience de l'historicité et du changement, qu'on peut ramener aux suites de la Révolution française et de la Révolution industrielle. Les gens, tout d'un coup, on prenne conscience que les choses ne sont plus comme avant, que ça bouge beaucoup. Ce qui est effectivement relayé par des problématiques gouvernementales, telles que Michel Foucault a pu en analyser certaines. Désormais, les hommes, disons, en dépit ou du fait de leurs conflits, plutôt que de leur accord harmonique préétabli, ce que pensait Leibniz, se pensent comme ayant à charge de constituer par eux-mêmes, dans le temps, l'ordre de leur existence et de leurs actes. Ils commencent à se percevoir comme les éléments d'un ensemble social sur lequel ils pourraient avoir prise. Ce qui fait que la notion de régulation se trouve susceptible d'affronter un nouveau défi, celui de l'intégration de l'ensemble des phénomènes humains en tant qu'ils relèvent tout à la fois de la physiologie de l'organisme et de lois proprement sociales, dont on commence tout juste à envisager que quelque chose comme ça pourrait exister. De telles lois régiraient donc les sociétés humaines en rendant concevable donc l'idée de progrès historique. Les conditions sont donc réunies pour l'apparition d'un débat épistémologique interne aux nouvelles sciences sociales sur le bien fondé des métaphores organiques de régulation pour penser justement ces lois sociales. Le premier à tirer, c'est Auguste Comte, qui élabore le premier une véritable théorie de la régulation sociale. Son concept de régulation reste conservateur. Si les organismes vivants peuvent admettre des variations, c'est parce qu'ils demeurent soumis à des constantes qui sont des constantes extérieures et des constantes d'ordre cosmique, la stabilité du système solaire, etc. Comte refuse, et c'est un point essentiel sur lequel je rejoins totalement ce qui a été dit, Comte refuse de réduire l'ordre supérieur, en l'occurrence ici social, à l'ordre inférieur, l'ordre organique et matériel des individus. Les variations du niveau inférieur sont toujours nécessairement contenues et limitées par la stabilité du niveau supérieur qui en assure la constance, ce qui permet le fameux progrès dans l'ordre. Ce faisant, Comte réserve toute sa place à la spiritualité dans l'analyse des phénomènes sociaux. Le contrôle des variations humaines a en effet un pendant spirituel dont le rôle est dévolu à ce qu'il appelle la religion positive, c'est l'aspect un peu délirant de la théorie kantienne, enfin qui peut paraître telle. Concrètement, l'époque contemporaine, pour Comte, doit voir se clore l'ère de la critique, qui a commencé à partir de la réforme protestante, et permettre l'avènement d'un nouvel ordre adéquat à l'industrie moderne. Et donc, alors qu'il étend justement pour la première fois l'empire de la science aux phénomènes sociaux, tout en les indexant sur cette notion de progrès historique, eh bien, il demeure, au fond, fondamentalement conservateur. Les comportements individuels doivent rester régis par un ordre. Alors, certes, chez les biologistes, et au même moment, chez Claude Bernard, se fait bien jour l'idée d'une régulation adaptative qui consacre l'autonomie d'un milieu intérieur par rapport à une extériorité qui n'est plus conçue comme un ordre, mais comme un lieu de perturbation. Donc le milieu intérieur, c'est ce qui va s'adapter, maintenir un ordre interne par opposition à une extériorité qui est dangereuse. Donc un virus, une infection, etc. De ce point de vue, la stabilité du maintien intérieur, la température du corps, la pression sanguine, etc., permet à l'individu vivant d'atteindre des buts indépendamment donc de l'extérieur. Mais, cela dit, les biologistes maintiennent précisément cette distinction entre intérieur et extérieur, ce qui est a priori l'essentiel. Je reviendrai sur ces implications. Simplement, le deuxième à tirer et à essayer de dépasser ce que Comte avait mis comme un interdit, cette assimilation du supérieur à l'inférieur, ça va être Herbert Spencer, la génération d'après, il meurt en 1903, et il essaye d'étendre le modèle physiologique pour l'étendre à la réalité sociale. En premier lieu, il affirme contre Comte que c'est bien une même logique, et donc un même ensemble d'outils conceptuels qui permettent de comprendre à la fois les individus et les groupes sociaux. Pour lui, la sociologie vient donc compléter ce qu'il appelle la psychobiologie par le biais de l'analogie, comparaison qui prétend bien fonder entre l'organisme et la société, ce qu'il appelle le corps social. Spencer donc invoque la notion de vis medicatrix naturae, la force guérissante de la nature, à laquelle les dernières découvertes des physiologistes paraissent donner une caution de scientificité, qui donc lui permet de soutenir la thèse que l'organisation sociale, conformément aux principes libéraux, doit être régulée simplement par le jeu des échanges individuels. Et donc en unifiant ces schèmes explicatifs et en ancrant la rationalité sociale dans la matérialité biologique, Spencer paraît gagner en rationalité, quoi. Mais du coup, il doit quand même justifier un petit peu cette analogie. C'est là évidemment que le bât blesse. Il défend le bien fondé du schème biologique par la superposition du concept de progrès social de l'humanité à celui d'évolution biologique des espèces qui vient piquer à Darwin, donnant naissance, bien sûr, a posteriori, c'est pas chez lui, à la notion de darwinisme social. Dès lors, l'âge de la critique, que Comte jugeait révolu, va se perpétuer indéfiniment, consacrant ce que Comte identifiait comme l'affect social dominant de la modernité, à savoir la haine du passé. Comme disait Rimbaud, il faut être absolument moderne. Le passé est toujours dépassé. Il faut toujours faire mieux. Pour ce faire, Spencer soutient l'idée d'une coévolution des comportements humains et des règles sociales. Le principe de sélection naturelle des mieux adaptés au milieu, à leur milieu, trouve à s'appliquer d'un même mouvement à la fois aux individus et aux institutions. Aux règles, quoi. On voit donc ce qui différencie Spencer de Comte et plus tard de Durkheim, c'est que selon le premier, il existe une même logique pour les deux niveaux. S'il me suis permis ce détour par le 19e siècle, c'est que finalement je crois que les coordonnées du problème ne semblent pas tellement modifiées par la suite. Plus tard, c'est certes à l'écart apparemment du concept classique organiciste de régulation, un peu marqué par les naïvetés biologisantes de Spencer, fautives en plus, que s'est développée la question de la régulation sociale. Mais malgré cette prudence lexicale, persiste, je crois, à l'analyse de forte continuité, comme l'illustre de manière exemplaire l'œuvre de Hayek. Dans Droit, législation et liberté, celui-ci réactive les principales thèses spencériennes sans en subir les inconvénients les plus voyants. Il s'affranchit de la référence à la régulation organique pour penser les interactions sociales, tout en conservant l'idée d'un progrès évolutionniste, emprunté à Darwin. Simplement, il montre que cette sélection ne s'applique plus qu'aux règles instituées et pas directement aux individus. Mais on retrouve chez lui l'idée spencérienne d'une transformation des conduites individuelles par l'acculturation progressive aux règles d'une civilisation elle-même issue d'une évolution naturelle, quoi. Les règles, comme chez Spencer d'ailleurs, sont conçues comme sous la forme d'une condition négative et non d'une intervention positive, censément autoritaire, de l'administration publique sur les marchés. Ce qu'il appelle des règles de juste conduite, qui permettent aux individus de se comporter de manière autonome et responsable. Je reviendrai sur cette responsabilité. Peut alors émerger ce qu'il appelle un ordre spontané par le biais d'échanges d'informations, qui sont essentiellement en fait les prix des marchandises échangées. Par la suite, la théorie de Hayek réussit le tour de force de refonder l'économie classique de l'équilibre général sur un perspectivisme absolu, le perspectivisme des acteurs. Lui-même adossé à une théorie sociale qui fait la part belle aux institutions humaines. Simplement, ces institutions sont censées évoluer darwiniquement. Mais ce schème permettant de comprendre cette auto-organisation ne se révèle pas si différent de celui de Spencer d'une régulation organique. Le modèle conceptuel n'est plus celui du vivant individuel, mais c'est celui de la cybernétique que Hayek cite, sur lequel il s'appuie expressément. Or, précisément, si la cybernétique est bien fondée sur le principe de l'échange d'informations, assorti de la notion de contrôle rétroactif, cette dernière n'en constitue pas moins un emprunt parfaitement attesté à la physiologie au milieu d'intérieur. Wiener a effectivement écrit son article séminal avec un physiologiste qui s'appelait Rosenbluth. Cette rétroaction négative comme principe d'autonomie du processus d'ordonnancement des interactions marchandes apparaît donc comme dérivée en dernière analyse de ce bon vieux concept physiologique de régulation organique, de maintien des constantes vitales, étendu cette fois à un ensemble d'individus, et ce en dépit des déclarations hayekiennes sur lesquelles la société n'est pas un corps organique. De manière intéressante à un regard rétrospectif, on peut voir dans la réponse de Durkheim à Spencer, à l'époque, se dessiner un tout autre usage possible de la notion de paradigme cybernétique ou d'autocontrôle dynamique que celui qu'entendait promouvoir Hayek. C'est un usage qui paraît de fait assez proche de celui que fait Hubert Rodary. Dans son premier grand livre, La division du travail social, Durkheim reconduit une critique assez dévastatrice que les contemporains médecins avaient fait à Hayek, disant en fait votre utilisation du contrôle physiologique est totalement fautive. En effet, en héritier de Comte et en lecteur aussi de Claude Bernard, Durkheim conteste vigoureusement l'idée d'une régulation qui jouerait à la fois sur l'inférieur et le supérieur, sur l'ordre individuel et l'ordre social, donc entre le niveau régulé et l'instance régulatrice, et en profite pour mettre en lumière le rôle spécifique joué par le gouvernement dans la possibilité des interactions individuelles, y compris dans l'ordre marchand. Spencer a eu le tort de confondre systématiquement transmission d'informations et exercice d'un contrôle. Je cite Durkheim. Ce qui correspond dans la société à la fonction régulatrice du système nerveux central, suivant M. Spencer, c'est cet échange d'informations qui se fait sans cesse d'une place à l'autre sur l'état de l'offre et de la demande et qui par suite arrête ou stimule la production. Mais il n'y a rien là qui ressemble à une action régulatrice. Transmettre une nouvelle n'est pas commander des mouvements. Et Durkheim de rappeler que le système nerveux exerce de fait toujours un contrôle absolu sur le milieu intérieur. Le marché ne s'autorégule pas parce qu'il ne suffit pas de transmettre des informations chiffrées sur la valeur des biens pour maintenir la stabilité du système. On peut deviner évidemment les implications politiques. C'est ennuyeux quand on est libéral de penser une régulation qui agit avec une main de fer sur l'homéostasie du milieu intérieur. Mais à ce stade de la critique, Durkheim ne tire pas de conclusion nette sur la nature et la modalité d'un tel contrôle administratif. Mais il est intéressant de noter qu'à tout prendre et en toute rigueur, l'usage du concept de contrôle rétroactif en sciences sociales ne devrait pas tant consacrer les paradigmes libéraux. Il est donc utile d'éclaircir plutôt les mécomptes de cet usage du concept de régulation dans le champ socio-économique qui aboutirait plutôt, en fait, si on est vraiment rigoureux, si on veut vraiment considérer le corps social comme un corps organique, eh ben, à l'idée qu'il faut un contrôle aussi fort et aussi tyrannique que l'est le système nerveux pour le corps individuel, pour le corps organique. Donc après la critique durkheimienne de Spencer, voyons à présent ce que pourrait être la critique canguilhémienne, c'est-à-dire la critique de ce philosophe, médecin, historien des sciences contemporain, que celui-ci adresserait à Hayek. Dans un article intitulé « Le problème des régulations dans l'organisme et dans la société », Canguilhem rappelle que ce qui définit l'organisme comme un mode d'être exceptionnel, c'est que, entre son existence et son idéal, entre son existence et sa règle ou sa norme, il n'y a pas de différence. Son existence, c'est sa norme. Sa norme, c'est d'exister. Si un organisme vivant est possible, son existence même implique d'emblée que soit donnée sa norme constitutive. Le problème n'est jamais pour lui de déterminer son but. Son but est toujours le même, son maintien en vie, sa restauration. La question importante, c'est la question des pathologies. À quelles pathologies on fait face et comment y répondre ? En revanche, dans le cas de la société, c'est le contraire. La notion de norme constitutive est introuvable. Elle est sujette à débat. La finalité de la société, dit Canguilhem, c'est précisément l'un des problèmes capitaux de l'existence. En revanche, le consensus paraît plus facile sur ce qui ne va pas. L'alcool, le travail des enfants, l'inertie bureaucratique, la violence, etc. Donc c'est exactement l'inverse. Raison pour laquelle on ne peut pas du tout utiliser le paradigme d'autorégulation dans le champ social. La réflexion sur les actions à entreprendre n'a pas du tout les mêmes modalités. Pour l'organisme, on débat des pathologies. Pour la société, on débat des normes. Donc la réflexion sur la régulation ou le contrôle social doit consacrer l'existence d'un débat sur les normes. Mais il est catégoriquement impossible d'utiliser le paradigme d'autorégulation et d'autocontrôle en matière sociale, puisqu'un tel autocontrôle suppose l'établissement préalable de normes absolument invariables. Et précisément, Canguilhem le note avec malice, l'état normal de la société, c'est peut-être en fait le désordre. Ce qui tendrait à expliquer des phénomènes typiquement humains comme l'héroïsme. L'héroïsme, c'est le moment où, tout d'un coup, quelqu'un en appelle à un ordre supérieur pour que ça cesse, pour arrêter, quoi, pour rappeler le sens nécessaire de la justice. Mais cet appel manifeste que, justement, la justice n'existe pas. Dans l'ordre normal de la société. Canguilhem savait ce que c'est que l'héroïsme, puisqu'il était résistant. C'est la seule fois où il a utilisé la médecine, d'ailleurs, dans la résistance. Plus peut-être qu'avec Durkheim, on peut donc finalement pointer un terrain d'entente entre Hayek et Canguilhem, à savoir l'idée du caractère a priori inconnaissable de ce qui relève de l'ordre humain et social. Mais alors que Canguilhem, en connaisseur accompli des concepts scientifiques et techniques, en tire des conclusions radicales sur la difficulté d'établir un ordre social, rationnelle, consacrant l'hétérogénéité absolue des catégories de pensée de l'organisme et de la société, Hayek, lui, paraît rester en chemin, en fait, et croyant que la seule transmission d'informations sur les prix, dans le cadre d'institutions orientées vers la fluidité d'une telle transmission d'informations, est susceptible de favoriser un ordre parfait. Pour finir, je voudrais alors prolonger un peu cette critique des mésusages de la notion d'autocontrôle de l'ordre marchand, en s'y liant du coup des difficultés pratiques qui sont des implications pratiques en fait de ces confusions théoriques et qui vont en fait largement dans le même sens que celles que souligne Hubert Rodary. Le premier aspect le plus frappant peut-être dans la théorie selon laquelle la transmission des prix est un vecteur d'autocontrôle du marché et atteste de son efficacité dans l'allocation des ressources est l'impasse complète sur l'aspect performatif de cette transmission d'informations. Durkheim disait « Transmettre une nouvelle n'est pas commander des mouvements ». C'est vrai, mais on pourrait compléter « Transmettre une nouvelle, ce n'est jamais seulement transmettre une nouvelle ». Au-delà de son contenu informatif proprement dit, une prise de parole constitue en soi un événement dont on ne saurait prédire a priori les effets de sens qu'elle est susceptible de prendre. C'est le problème, je ne sais pas, des prophéties autoréalisatrices, la question des tâches solaires, etc. C'est un aspect de l'analyse du langage comme performance, et plus précisément comme ce que Austin, donc pour les philosophes, philosophes du langage anglais, avait désigné sous le terme d'effet perlocutoire du langage, ce qui permet de comprendre des phénomènes tels que, justement, donc ces fameuses prophéties autoréalisatrices. Ils sont simplement impensables si on est hayekien. C'est pas possible qu'il y en ait. Paradoxalement, c'est donc ce caractère appauvri et lacunaire, en fait, de la compréhension de la communication à travers l'usage du concept de régulation dans le cadre des marchés qui apparaît le plus frappant. Dire que la seule responsabilité de l'acteur économique consiste dans sa capacité à transmettre les prix implique en fait deux choses. Un, qu'il le fasse efficacement, et deux, qu'il ne pense à rien d'autre. Par exemple, sans penser aux conséquences éventuelles de tout ordre de son action. Ce qu'on pourrait relier aux symptômes qu'évoquait Hubert Rodary de fonctionnalisation du travail économique. Avec une forme de déresponsabilisation à l'égard de tout le contexte institutionnel de son acte, quoi. Voire une dépersonnalisation ou une déshumanisation de l'action. J'osais pas aller si loin, mais apparemment, ce serait le cas. Et c'est paradoxal parce que Hayek insiste évidemment sur la responsabilisation de l'action individuelle grâce à la discipline. Classiquement, il insiste sur la réciprocité des droits et des devoirs, mais cela aboutit en fait à une forme de déresponsabilisation totale. La construction de l'ordre marchand implique ainsi paradoxalement une déréglementation, je ne parle pas de dérégulation, on enlève la réglementation administrative, qui enlève toute forme de contrôle à la sphère économique. Sachant que l'idée d'une régulation adaptative impliquant que ces règles institutionnelles soient déterminées par l'évolution au niveau inférieur des échanges est confuse pour un cybernéticien et ne peut pas avoir de sens. Les automates financiers, à cet égard, ne relèvent pas de la cybernétique. Ce ne sont que des machines à enregistrer l'information et à prendre des décisions sans aucune norme contraignante de stabilisation. Tout automate programmable de décision ne relève pas de la cybernétique. Et donc, comme le souligne Hubert Rodary, la minimisation du risque via le traitement de l'incertitude ou l'assurance qualité n'est pas un critère d'équilibre. De fait, les constantes d'équilibre dans les automates ne sont pas définies, pour la simple raison que si on raisonne en termes hayekiens, elles ne sont tout simplement pas recherchées. On ne veut pas de l'équilibre, ce que vous avez bien dit tout à l'heure. On veut du déséquilibre. Pourquoi donc chercher une stabilisation du système ? L'ordre spontané des interactions marchandes requiert donc ce déséquilibre pour ce progrès indéfini, chaque instant nouveau constituant ou étant censé constituer une remise en question critique de l'instant précédent, une sorte de modernité hyperbolique. Donc d'un point de vue, disons, cybernétique, l'usage hayekien du paradigme de feedback aboutit à la fois, paradoxalement, à une rigidification des comportements individuels, puisque les individus doivent contribuer à l'ordre spontané du marché en se conformant strictement à la discipline correspondante, et à une amplification du désordre général, ou dans les termes de Wiener, de l'entropie. Paradoxe supplémentaire, ce désordre apparaît à la conscience des acteurs comme le résultat d'une fatalité, la fameuse loi du marché, qui s'exprimerait à travers les interactions individuelles sans que personne ne puisse s'en tenir pour responsable. Un tel constat, dernière remarque, rejoint une remarque faite par l'un des introducteurs des sciences cognitives en France, Jean-Pierre Dupuis, dans son livre qui a rencontré un certain succès, Pour un catastrophisme éclairé. Dupuis, qui s'est beaucoup frotté de cybernétique, cite le cybernéticien et un élève de Wiener qui s'appelle Heinz von Förster, pour qui il existe, je cite Dupuis parlant de Förster, un rapport de causalité circulaire entre une totalité, par exemple une collectivité humaine, et ses éléments, les individus qui la composent. En effet, les individus sont reliés à la fois entre eux et à la collectivité, ce que révèle l'existence des règles, règles communes. Et les liens entre individus sont plus ou moins rigides, au sens où les comportements deviennent prévisibles pour tous les acteurs concernés. C'est là qu'on voit la rigidité du système, les gens deviennent prévisibles. Et von Förster émet la conjecture suivante, je cite à nouveau Dupuis, « Plus les relations individuelles sont rigides, plus le comportement de la totalité apparaîtra aux éléments individuels qui la composent comme dotés d'une dynamique propre qui échappe à leur maîtrise. » Ce qui est assurément une conséquence inattendue de la discipline des comportements. On retrouve en effet l'effet de transcendance ou de spiritualité qu'avait pointé Auguste Comte dans ses premiers usages du concept de régulation et qu'avaient justement voulu éviter Spencer et Hayek, ce qui n'est évidemment pas le moindre paradoxe de cette analyse. Que conclure alors, sans m'étendre outre mesure ? Deux idées au moins qui paraissent émerger de cette analyse des usages sociaux et économiques du concept de régulation. D'abord, la confusion liée à l'ordre spontané naissant d'autocontrôle adaptatif, qui relève au mieux de l'acte de foi et certainement pas de la régulation systémique des cybernéticiens ou des physiologues. Deuxièmement, l'idée que l'extension de l'entropie et du désordre au sein des interactions marchandes et financières pourrait être combattue par l'extension réelle de la responsabilité des acteurs au-delà du seul cadre marchand et financier, avec la prise en compte tout simplement des autres sphères sociales. Ce qui aboutit en effet à l'idée d'une réglementation ou du contrôle des marchés financiers par des institutions qui ne relèvent pas à proprement parler de ceux-ci. Ou en termes de Karl Polanyi, il y a aussi parlé de régulation, à l'idée d'un réencastrement des relations marchandes au sein des autres relations sociales. Ce qui ne conduit pas nécessairement sans doute à une économie collectiviste, mais qui implique de réaménager l'idée que nous nous faisons du progrès. Et de la question de la conservation et de l'ordre. Plus largement, le problème n'est peut-être pas de trouver une bonne technique de gouvernement, mais de savoir qu'il n'y a pas de technologie gouvernementale au sens propre. Qu'il y a un danger spécifique, là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, à concevoir de manière systématique et automatique les relations sociales. Je vous remercie.